Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous invite quoi?
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, c'est l'épisode 407 du RMC Fighter Club. Très heureux de vous retrouver, numéro spécial avec un sujet global aujourd'hui et passionnant car le constat est clair, la boxe est en difficulté en France. Manque de stars, manque de visibilité, manque de lisibilité aussi. Les problèmes sont nombreux, on va essayer de les exposer pour, on l'espère, entrevoir des solutions pour les années à venir. Pour en parler évidemment, le pilier du RMC Fighter Club, Baba est avec moi. Salut Baba.
Salut Charles.
Ça va?
Ça va, super, bah oui.
T'es d'accord avec ce constat?
Bah, je suis d'accord avec ce constat, et puis surtout, je suis très content de recevoir un champion français de pied-point, parce que je viens du pied-point, comme le savez, vous, tout le monde le sait, et que c'est mon premier amour, donc très content d'être ouais. avec une sommité du pied-point chez nous.
Et bah justement, on accueille Yacine Berab, ancien champion de France aussi de boxe anglaise, hein. Je crois, Yacine, avec du pied-point, effectivement, dans ton passif, on va en parler, fondateur entre autres de Stair Event, la société qui organise le retour des sports de combat dans l'arène légendaire du Grand Palais à Paris, avec une grosse soirée autour du championnat du monde de Cyril Benzaken. Salut Yacine.
Salut.
Ça
merci.
Va
Ça va et vous?
Bah ouais, en plein rush pour toi. Je pense que là, le combat, c'est... Je pense qu'on va diffuser cet épisode mercredi, certainement, ouais. C'est jeudi, la soirée de Cyril Benzaken, à laquelle
le jour de la auquel
t'es associé, voilà, donc c'est un gros, une grosse actualité pour toi. On est content parce que ton but aussi, c'est d'essayer de redonner du souffle et de redynamiser la boxe anglaise en France.
Exactement. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est mettre en lumière les combattants français et leur permettre de combattre et se faire respecter, surtout sur le territoire français.
Très bien, on va en parler. C'est parti pour le RMC Fighter Club spécial relance de la boxe en France. Yacine, on va d'abord évoquer cet événement qui arrive, hein, et puis ce que ça représente aussi de manière plus globale, parce que le Grand Palais n'a pas accueilli, je crois, de sport de combat depuis Marcel Cerdan, c'est ça?
Exact.
C'est Marcel Cerdan le dernier. C'était il y a 80 ans, victoire sur Gaspard De Ridder en 80 secondes, dès le premier round à l'époque. Donc depuis cette époque-là, la nef du Grand Palais n'a jamais réaccueilli de sport de combat.
C'est une première depuis pas mal de temps, mais surtout en kickboxing, c'est la première fois que le Grand Palais accueille du kickboxing. C'est assez merveilleux.
Ouais, c'est vrai que ça doit te faire plaisir aussi.
Ouais.
De voir. Parce que ce lieu-là, on en parlait avec Yacine, là justement, il y avait l'Irox il y a quelques
oui,
jours.
Là, jusqu'à,
là, là, jusqu'à lundi, ouais. Je crois que c'était okay. Lundi, il y a des montages, etc. Parce que c'est une grosse machine aussi. Mais ça accueille des événements qui sont très populaires comme ça.
Ouais.
De voir aussi du pied-point qui arrive sous cette arène historique, mm-hmm. Ça doit te faire plaisir, toi, l'amour du pied-point.
Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir pour moi, ça fait plaisir pour les gars de ma génération qui avons connu l'âge d'or du kickboxing dans le monde et particulièrement en France, parce qu'il faut rappeler qu'on a été excellent dans ce sport-là et qu'on en a écrit aussi les lettres de noblesse. Donc on remplissait Bercy à l'époque, on remplissait des grosses arènes comme ça. Donc de voir du kickboxing dans un écrin aussi prestigieux, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce sport n'est pas mort, contrairement à ce qu'on croit. On a des gros talents, il y aura des très gros talents sur cette carte.
Ouais.
Et des gars aussi, des amis qui font leur retour, donc hâte d'être jeudi.
Ouais, il y a une belle carte, je crois qu'il y a, si je compte bien ici, il y a 9 combats en tout.
Exactement.
C'est ça, Yacine ?
9 combats, ouais. Donc 3 championnats du monde et un titre intercontinental, avec des anciennes sommités et de kickboxing, notamment Cédric Pénaud qui fait son grand ouais. retour, après une longue absence en pied-point, qui fait son grand retour à Paris chez lui et Cyril et Karim aussi, qui va peut-être tourner la page de sa carrière.
Ouais, Karim Gadji, bien sûr, qui a été souvent sur vos événements que vous organisez avec Cyril Benzaken, qu'on a déjà vu sur vos events. C'était, c'est aussi la volonté de ne pas te proposer seulement un show qui est beau à voir, parce que l'enceinte est très belle, mais c'est aussi de donner des beaux affrontements sportifs. C'est ça votre objectif aussi avec Cyril?
Notre objectif aujourd'hui, c'est de recréer une réelle envie au grand public de venir voir du combat, du vrai combat. Quand on viendra jeudi soir à notre événement, au niveau matchmaking, je ne sais pas qui va gagner. Aujourd'hui, je ne sais pas qui va gagner. Et c'est ça que le grand public s'intéresse. Notamment Amin Ouamri qui va combattre contre Cédric Pénaud, c'est un jeune qui a envie. Donc on aura des combats équilibrés et on ne connaît pas encore l'issue des combats.
C'est le cas aussi pour le combat de Cyril. Certains peuvent dire que c'est un événement qui est monté autour de lui. Donc forcément, on va lui trouver un adversaire qui est plus qu'à sa hauteur. Comment se font les match-up par rapport au combat de Cyril Benzaken?
Alors là, ce combat, ça va être un combat très important parce qu'on a un jeune qui s'appelle Samir Selmi, qui a 23 ans, qui est originaire de Tunisie, qui c'est très peu de temps aujourd'hui qu'il est en Italie. Il a vraiment beaucoup de combats en pied-point, mais également en MMA. Je crois qu'il a 4-5 combats en MMA pro. Et il a une grosse carrière amateur. Et c'est quelqu'un qui a envie de détruire Cyril, clairement. Mmh. Et c'est le genre de profil qui sont très dangereux. On l'a vu auparavant avec Lambagou. C'est un peu le même profil. C'est un profil où tu es obligé de monter tes mains parce que ça frappe un peu. Et tu es obligé aussi d'être assidu à ton entraînement, sinon ça va se voir directement sur le ring. On ne peut pas faire de cadeaux, on ne peut pas arriver au Grand Palais en ramenant à faire valoir et que Cyril gagne en 80 secondes, c'est pas possible.
Ouais.
Ça va perdre toute
sa
valeur.
Donc il faut de l'enjeu sportif pour que ce genre d'événement soit crédité auprès du grand public aussi.
Exactement, et même Cyril a envie de rencontrer Deon, on l'a vu. Là, il avait rencontré auparavant Yoann Nidon au Grand Palais éphémère avec un combat très équilibré. Et là, on parlait aussi d'un gros combattant issu du Glory, mais on n'a pas pu gérer les négociations. Mais ça émane aussi de Cyril de rencontrer des noms.
Est-ce que, Baba, tu penses que... On va parler du parcours de Yacine et puis on parlera beaucoup de boxe anglaise, mais tu penses que pour le pied-point, tu as parlé des grandes époques, années 90, Bercy qui était plein, les Skarbovski, les Kamel Djemel, c'est des noms dont on parle souvent aussi ici, mais c'était une grande époque du pied-point. Est-ce que tu penses que c'est possible de retrouver cette effervescence, sachant qu'il y a le MMA qui est arrivé et que le MMA prend beaucoup de place et que peut-être que les gens, un petit peu, ont remplacé le pied-point par le MMA?
Non, je pense que c'est possible. C'est aussi des histoires...
Ça fait un peu la grimace quand même.
Ouais, parce que c'est une question difficile. Et tu aimes bien poser des questions difficiles. Mais moi, je pense que déjà, c'est des histoires d'ère, de période. Moi, j'ai la conviction profonde que l'immense majorité des gens qui regardent du MMA, ils veulent voir des combats debout. Donc le kickboxing, le Muay Thai, ça t'offre cette possibilité-là. On le sait, nous, avec les diffusions du One notamment, où les gens en ont quand même pas mal pour ce qu'ils veulent. Et encore une fois, le kickboxing, encore plus que le Muay Thai, c'est un sport très dynamique, parce que le Muay Thai, on va avoir beaucoup de corps à corps, de clinch. Et là, sur 3x3 minutes, tu vas avoir beaucoup d'échanges. Donc c'est ce que les gens aiment regarder. Maintenant, c'est vrai que, et là, je suis obligé de dire la vérité, c'est que toi qui a travaillé pour Combat Sport, donc qui a diffusé l'âge d'or du pied-point, ben, les médias ont abandonné le pied-point. Et le milieu du pied-point n'a pas su aussi épouser ce virage-là avec l'arrivée du MMA et proposer des galas toujours plus qualitatifs. Là, ça revient. On a Yacine qui vient avec son organisation. On a Elhadj Mekedem à Tours qui réorganise des Nuits des Titans. On a le Super Fight. Donc, on a Issa Terchi et toute la bande de Clichy qui organise très bientôt aussi. Donc, on a des organisations au pied-point qui reviennent. Ouais. Maintenant, il faudra que ce soit diffusé.
Voilà, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. Il y a les événements qui se montent, Yacine, c'est vrai. Mais par contre, le nerf de la guerre, c'est aussi les diffuseurs.
C'est les médias.
Parce que qui dit diffuseur dit possibilité d'attirer des sponsors parce que plus de visibilité. Et donc, forcément, c'est un peu le nerf de la guerre. Tu parlais de l'époque Combat Sport. C'est intéressant parce qu'on va en parler via ton parcours aussi, Yacine. Parce que toi, tu as été boxeur. Je crois que tu as arrêté à 22 ans pour des raisons familiales et personnelles ta carrière. Mais par contre, très vite, tu as commencé à bosser avec Cyril Benzaken. Et votre premier événement avait été diffusé sur Combat Sport à l'époque. Donc, je me rappelle peut-être qu'il y avait eu plusieurs diffuseurs. Mais notamment sur Combat Sport, ça avait été diffusé. C'est ça le nerf de la guerre pour ce qui est des sports de combat et d'essayer de les étendre au plus grand nombre.
Exactement. Je pense que la visibilité, c'est le nerf du combat aujourd'hui, mais pas que pour les événements, pour faire découvrir aussi les nouveaux talents. On a besoin aujourd'hui en France de faire découvrir nos boxeurs français à travers nos événements. Combat Sport, c'est très bien pour nous, pour les organisateurs, pour pouvoir les vendre quelques espaces publicitaires à l'échelle locale, parce que c'est pas assez grand public. Mais là, Baba parlait de l'ère de Samy Kepchi qui sera présent aussi au gala. Là, c'était un tout autre stade où il y avait des vrais réels diffusion sur Canal+, en direct, avec des transversalités qui pouvaient se faire avec le foot, avec le cinéma. Et c'est ça qui manque aujourd'hui pour faire connaître les stars. On a eu Dida qui est sorti de la boxe pied-point. On a eu des grands champions.
Jérôme Le Banner.
Jérôme Le Banner.
Qui est certainement le plus connu du pied-point, peut-être en France, hein, de l'histoire du pied-point. C'est peut-être lui le plus connu, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Je ne vois
pas d'autres. C'est vrai que Dida a eu une popularité aussi. Mais...
Popularité, il y a Fight Kider, il y en a pas mal. Il y a eu pas mal de combattants qui sont sortis de ces soirées par le biais à l'époque de Canal+, mais aussi des transversalités qui se faisaient entre le cinéma, le rap et toute cette fame un peu qui montait un peu les combattants. Et ce qui manque actuellement et qu'on essaie de retransmettre en pied-point.
Il y a un article sur lequel je suis tombé là, en préparant un peu cette émission. C'est un article qui date de 2009, décembre 2009, rédigé par Laurence Schneider. C'était sur le Figaro. Le titre, c'était « La boxe pro est-elle morte en France ?» Voilà, c'est un constat. Ça avait l'air d'être... Alors, il y avait une question à la fin, mais finalement, en lisant l'article, c'était plus un constat qu'une question. Finalement, elle disait, c'est vrai que la boxe pro a beaucoup de difficultés à se renouveler. On va se poser cette question aujourd'hui en France. Moi, j'ai relevé pas mal de faits qui étaient exposés dans cet article-là pour voir si, encore aujourd'hui, ces faits-là pouvaient s'appliquer ou pas. Yacine, réponds toi-même de ce que tu en penses, en tout cas à cette question. Est-ce que pour toi, la boxe pro aujourd'hui est morte en France ? Et juste après, on va recevoir quelqu'un qui a bien connu aussi, on parlait de l'âge d'or du pied-point, qui a bien connu l'âge d'or de la boxe en France et de la diffusion de la boxe en France aussi.
Pour moi, comparé à en 2009, on est exactement au même point. Sortie de Jeux Olympiques 2008 Pékin, on a une médaille, d'Alexis Vassine, pas à son âme, qui se fait voler, clairement. Et derrière, on n'a aucun diffuseur pour le monter. On a rien du tout. Canal Plus abandonne la boxe à cette même période par le biais de Brahim Asloum. Ils ont abandonné complètement la boxe. Et de là, ça va de carré dans Silla. Et aujourd'hui, on arrive exactement à cette même période avec l'abandon de Tony Oka par Canal Plus. Et je peux vous dire que ce n'est pas les talents qui manquent en France. On a quand même... 5 challengers mondiaux. On a un champion du monde issu de la France qui a été en équipe de France qui s'appelle Christian Billy. On a des champions silver, notamment Bilej Kitou, Khalil El Adri, Bakary Samaké, qui sont tous originaires de la France et qui sont numéro 2, numéro 5 mondiaux. Et ce n'est pas les combattants qui manquent aujourd'hui, c'est le média qui propulse ces combattants.
Christian Billy, peut-être face à Canelo, c'est en train de tourner en ce moment, on attend l'officialisation, mais ça pourrait se faire. Christian Billy qui était dans Baba Versus d'ailleurs, qui est disponible encore sur YouTube RMC Sport Combat si vous voulez aller le voir sur Internet. Juste cette question très rapidement avant qu'on accueille notre invité. Baba, est-ce que pour toi, la boxe anglaise est morte en France aujourd'hui? Et est-ce que, sur ce deuxième versant de la réponse de Yacine, est-ce que depuis 2009, ça a stagné?
Ouais, non, moi j'ajoute rien à ce que dit Yacine, il a complètement raison. Je vois pas, parce qu'il faut pas être non plus catastrophiste. La boxe en France, elle existe si tu te déplaces, entre guillemets. Si tu vas dans les galas, si t'es dans le milieu, tu sais qu'elle existe. Moi je trempe encore dans le milieu, donc je sais que les gars sont là. Je dirais même qu'en termes de talent aujourd'hui, que ce soit en amateur et en pro, on a rarement été aussi homogène. Il y en a beaucoup des talents. Il n'y en a pas peut-être 5-6. Il y en a vraiment beaucoup. Donc après, je redescends tout en bas parce que je vais même voir des challenges du premier round. Donc c'est le premier niveau que tu vas voir en amateur. Je vais voir le championnat d'Île-de-France parce que je sais que je vais voir des gros talents. Et moi, je les trouve très très forts, les jeunes boxeurs aujourd'hui. Et les boxeurs qui se sont ici au plus haut niveau, contrairement à certaines époques, moi je trouve qu'ils ont une vraie chance de devenir champion du monde ou de battre des gros adversaires. Est-ce que Christian Billy peut battre Canelo? Bien sûr que oui, j'en suis plus que convaincu moi. Donc je pense qu'aujourd'hui on a le niveau, mais ouais, encore une fois, c'est la diffusion le problème, c'est la mise en avant des boxeurs le problème.
Alors l'âge d'or de la diffusion de la boxe anglaise en France est aussi représenté par une voix très caractéristique, celle de Jean-Philippe Lustig qui est avec nous au téléphone. Salut Jean-Philippe.
Salut Jean, salut à tous.
Comment ça va?
Je vous écoute là. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis à la montagne là, donc je vais.
Ah voilà.
Voilà, mais ça fait du bien de décompresser un petit peu, voilà, pour respirer du bon air.
C'est bien. Je crois que tu seras de retour pour le combat de Cyril jeudi soir
bien
à Paris,
sûr,
pour ceux qui veulent te
entendu.
Voir.
Bien entendu, je suis toujours fidèle à Cyril et à Yacine et vous me retrouverez sur le ring à présenter cette belle soirée.
Et voilà, un passionné de la première heure qui continue de l'être aussi pour le pied-point et surtout pour la boxe anglaise, Jean-Philippe Lustig. Jean-Philippe, on est content de t'avoir parce que c'est vrai que tu as connu chez Canal+ à l'époque, chez TF1 aussi à une certaine période et puis tu as connu l'époque Combat Sport aussi, ma chaîne sport qui diffusait. Tu commentais d'ailleurs sur ma chaîne sport aussi avec Boutier, hein. C'était quand même une époque assez exceptionnelle. Jean-Philippe, raconte-nous un peu ce que toi t'as vécu et à quel point ces belles années de la boxe en France étaient représentatives de ce que est ce sport pour beaucoup de Français et à quel point les champions aussi que toi tu as connus, que toi tu as commenté, que tu as rencontré, réussissaient à drainer ce sport-là en France.
Bon, alors le mot est fort quand je t'entends dire et poser cette question, est-ce que la boxe est morte en France? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, le niveau des boxeurs actuels est très fort. Et ça, vous avez raison d'insister autour de la table. Incontestablement, il y a de très très bons boxeurs français aujourd'hui. Elle n'est pas morte. Simplement, depuis 40 ans, depuis que je commande ce sport-là et ayant commencé à Canal a financé ce sport. C'est simple. Elle a financé. Donc, elle a exposé les boxeurs au moment où il n'y avait pas autant de plateformes, autant de réseaux sociaux. Ils n'existaient même pas d'ailleurs. Et donc, les boxeurs devenaient des champions de boxe, des champions tout court. Ils étaient exposés. Les parallèles, vous avez évoqué le cinéma, vous avez évoqué les variétés. Il y avait ça. TF1, bien entendu, dans les années 89, 10, 11, 12, etc. Quand j'ai quitté Canal, on a développé tout ça pendant des années, exposé les Taffaires, les Mendy, les Lorsi, Boudouani. Bien sûr, on ne va pas refaire l'histoire de la boxe. Donc, simplement, le modèle économique de ce sport-là, depuis les années 85, il a été uniquement sur le financement d'un diffuseur. À partir du moment où ce diffuseur a décidé d'arrêter la boxe, on s'en souvient avec l'affaire Brahim Asloum, alors qu'il est champion du monde, Canal arrête la boxe. Canal revient 10 ans après. On pense avec la clé IOCA, comme il y avait eu la clé en 2008 avec 3 médailles aux Jeux de Pékin. N'oublions pas, vous avez évoqué Bastine, il y avait toute une génération de boxeurs aussi qui méritaient d'être exposés. Et Canal revient en 2017, on dit, parce que eux seuls peuvent financer. Et quand on dit financer, ce n'est pas donner, avec tout le respect que l'on doit, 10 000 euros seulement à un organisateur ou de payer la prod. Ce n'est pas ça. C'est donc donner des montants conséquents pour que les boxeurs vivent, bien entendu, de leur art, de leur métier, mais également de pouvoir organiser des combats qui coûtent cher et que les boxeurs français ne s'expatrient pas. Donc d'organiser en France, c'est ça le modèle. Et Canal, déçu par IOCA pour les raisons multiples, etc., on ne va pas refaire l'histoire, tout le monde est responsable, hein, très bien, et donc il se retire de la boxe, dégoûté par ce sport, alors qu'il finançait, n'oublions pas le chiffre officiel qui a été annoncé à la signature, Tony Yoka a touché 1 million d'euros à la signature en 2017. Donc il y avait de l'argent. Et derrière, il donnait plusieurs centaines de milliers d'euros par soirée. Donc il n'y a plus ça. Donc il faut réinventer. Il faut que la boxe se renouvelle, qu'elle se réinvente, qu'elle trouve de nouveaux modes de financement. On ne peut plus compter sur un financement classique. Le diffuseur en arrivait, il y avait un programme. Moi, j'étais en charge des acquisitions sur Eurosport pour toute l'Europe, à TF1, à ma chaîne Sport, on s'en souvient, Charles, très bien, j'ai fait la même chose sur l'équipe derrière aussi. Voilà, il y avait des budgets et on mettait sur pied des soirées. Mais ces soirées, sur un modèle économique, étaient fragiles. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et c'est en cela, avec bien entendu la concurrence, mais il faut simplement se réinventer. La boxe n'est pas morte. La boxe est pratiquée, elle est populaire, j'ai mis autant de gens dans les salles. N'oublions pas, en province, régulièrement, ça fait recette. 2000, 3000 personnes, il y a des champions locaux qui font recette. Donc voilà, il faut simplement trouver de nouveaux modèles. Aujourd'hui, il y a bien sûr DAZN, mais DAZN aujourd'hui, sur un plan monde, finance la boxe mondiale, mais pas sur la France.
Voilà,
un peu le panorama de ce qui se passe aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, tu parles de ces salles effectivement qui font recette. On a bien connu par exemple la salle de Saint-Nazaire, la Soucoupe, où c'est tout le temps plein, où il y a une grosse atmosphère. Il y a Caen aussi, le Palais des Sports qui a réuni. Il y a Maxime Bossière à l'époque qui a rempli aussi là-bas. Mais
il y a Charleville-Mézières également. Ouais,
Charleville-Mézières,
Charleville dans les Ardennes.
On voit, en fait, c'est ce que disait Baba. En allant sur les galas, on voit que c'est un sport très populaire que les gens ont envie de voir. Mais malgré tout, Jean-Philippe, tu seras d'accord pour dire que si tu passes des combats de la Soucoupe de Saint-Nazaire à la télé, ça ne réunit pas beaucoup de monde. Tu n'arrives pas à attirer de monde. Comment est-ce qu'on peut régler ça ?
On peut attirer.
Ça attire du monde. C'est-à-dire que les audiences sont là. C'est-à-dire que dès qu'on donne la possibilité aujourd'hui, on l'a vu avec la chaîne L'Équipe, avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont regardé entre 2015 et 2020, puisque Estelle Mosley était sous contrat avec la chaîne. Donc il y a aujourd'hui, simplement, la mise en perspective aujourd'hui, les moyens, quand il y a un direct, je vais donner un exemple, j'ai fait les championnats de France Sportmag, okay, la plateforme Sportmag a diffusé les championnats de France amateurs, toutes les finales à La Rochelle au mois de janvier, d'accord, donc c'était en gratuit sur YouTube, vous avez eu juste en termes de connexion, vous avez eu 40 000 connexions ce soir-là, et tout l'après-midi, qui ont regardé juste les championnats de France. Mais c'est beaucoup dans ce contexte aujourd'hui. Mais il faut donc trouver des moyens aujourd'hui. Christian Mbili, Milan Pratt, Michel Soro, il y a toute une génération de boxeurs aujourd'hui, de boxeuses qui sont talentueux. C'est indéniable. Ils n'ont rien à envier à ceux du passé. D'accord ? Il ne faut pas être passé, il faut regarder devant. Mais donc, il faut se dire aujourd'hui, ces gens font recette. Vous savez, pour déplacer 2000 payants, 3000 payants, ce n'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui font ça. Vous avez Hugo Morel. Hugo Morel qui, à Cherbourg, déplace 3000 personnes. Il boxe le 9 mai pour entrer dans les champions de France des Walter. Super spectaculaire. Il me rappelle un petit peu avec le lien qu'il pourrait créer Thierry Jacob, le pauvre. Voilà, que paye son nom, sa statue, ce qui est assez incroyable. Il y a donc des boxeurs aujourd'hui. Il y a des organisateurs. Yacine maintenant se lance. Génial. Il y a un savoir-faire. Il y a Palatina avec Franck Nicotra qui donne un calendrier avec des dates précises pour exposer ces boxeurs français.
Ouais.
Mais, comme je le dis, la clé, c'était le financement énorme. c'était facile, entre guillemets. Mais vous arrivez, le promoteur, c'était facile. Hein. Et puis le contrat, il était fait. Puis à partir de là, vous pouviez établir votre soirée. Ouais. Et bien aujourd'hui, c'est différent.
Alors, est-ce que on va faire intervenir Yacine là-dessus, mais est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui d'abord monter les stars avant d'en faire des bons combattants? Je prends l'exemple de Jake Paul, évidemment, aux États-Unis. Je prends l'exemple de Rebeu Déter en France, qui avait rempli la U Arena, je crois, à Nanterre, donc 30 ou 40 000 personnes qui étaient venues pour un mec qui n'avait jamais fait de combat de boxe, et ça s'est fait sur son nom. Il y avait Greg MMA en face aussi, donc ça amenait un peu de crédibilité sportive. Mais tu vois, Yacine, est-ce que c'est pas important aussi de faire monter des personnages avant même que ce soit des bons boxeurs?
Bah, sur l'art du digital, on peut le faire, mais on peut monter et à la fois sportivement et monter en même temps les boxeurs. Ça se fait piano. Mmh. C'est tout à fait possible. On a Instagram, on a TikTok aujourd'hui, on a aussi Twitch, sur lequel il y a pas mal de jeunes qui regardent nos combattants. On peut le faire. Et en plus, ce qui est beaucoup plus facile, c'est qu'on a beaucoup plus accès à des gros influenceurs. Aujourd'hui, il suffit de se greffer avec un influenceur comme Rebeu Déter, et ta carrière, elle peut décoller, et les Français peuvent s'intéresser à toi. Ouais. Ou à Nasdaq, ou voilà. Il y a pas mal d'influences et de... C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, si on a les moyens de le faire, de percer au niveau médiatique.
Est-ce que tu regrettes, Jean-Philippe, justement, que des familles, par exemple, qui peuvent être assez porteuses au niveau médiatique, la famille Oubali, la famille Alab, tu vois, c'est des vrais passionnés qui ont eu des frères, qui ont eu des très grands niveaux, des frères entraîneurs, des frères arbitres, il y a eu plein de choses, toute une énergie sur ces familles-là. Tu regrettes que ce genre de profil-là ne soit pas assez monté médiatiquement?
Alors, c'est intéressant ce que dit Yacine là, sur les réseaux sociaux, et ta question, Charles, par rapport à la famille Alab et tout cela. Il y a un savoir-faire régional. Ils font des soirées, ils font 1500 payants, c'est des super entraîneurs, tous les frères, c'est intéressant. Et ils montent plein de boxeurs. Mais il y a un élément clé, c'est que, et d'ailleurs, Cyril, on est la parfaite illustration, et Bakary Samaké aussi, ne l'oublions pas, c'est que vous avez de bons boxeurs français, ils sont restés sur des modèles anciens. Le modèle ancien, c'est... Bah, le réseau social, moi, j'y crois pas trop, j'ai du mal. Mais un boxeur moyen aujourd'hui, qui est très fort sur un réseau social, c'est plus important qu'un très bon boxeur qui est absent sur un réseau social. C'est dur à dire, les copains, c'est dur, mais c'est la réalité. Ce qui veut dire que dans les mentalités, il faut changer. Bakary Samaké, avec son père, on fait évoluer les choses, ça, c'est incroyable. Donc quand tu parles justement qu'un boxeur se mette en scène, il faut rester dans le narratif sportif. Il faut bien entendu rester dans la dimension sportive. Mais à côté... expliquer en permanence, raconter une histoire. Il faut donc que les boxeurs fassent la réflexion, se mettent en... réfléchissent à cela. Et même au sein de l'équipe de France, je sais pas absolument, mais comment se fait-il qu'avec 3 médaillés olympiques, il n'y ait pas de retombée aujourd'hui que les mecs soient inconnus? J'exagère, hein. Mais il n'existe pas sur les réseaux sociaux. Il faudrait donc qu'il y ait aujourd'hui une structure qui soit mise en place au sein de la Fédé, ou alors sur un plan individuel, pour dire comment on fait, comment j'existe, j'allais voir un community manager, qu'est-ce que je raconte, comment je signe cela. Et on développe cette communauté, et on crée du lien avec ce public. Et donc, il y a le système du business qui va ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cela, c'est un ensemble. Et la boxe, elle est restée sur des méthodes. Et pourtant, je suis dedans depuis tellement longtemps et j'adore ça. Il faut aujourd'hui vivre avec son temps. Ouais. Ok, le direct du gauche, il est important, le talent, le punch, la droite, génial. Mais également, pour exister, qu'est-ce que je fais à côté? Voilà.
Baba, t'es d'accord avec ça? Le direct du gauche, avant le nombre d'abonnés sur Instagram, et après, on développe le reste?
Bah, à la salle, tu vas travailler évidemment ce qui fait qu'il va te faire de toi un champion. Maintenant, on est dans une ère, dans une époque où effectivement, tout a été dit entre Yacine et Jean-Philippe. Il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, c'est le temps d'Internet. Ce n'est pas le temps vraiment de la diffusion télé. C'est le temps d'Internet, c'est le temps du streaming. Ouais. C'est le temps de Twitch qui est plus que sous-exploité sur la boxe. Et je passe un grand bonjour d'ailleurs à mon ami Afid Nostres qui essaye de faire des diffusions assez fréquentes dessus. On voit aujourd'hui avec le foot, avec un Zach Nani qui récupère des droits footballistiques et que ça va continuer avec d'autres sports, qu'il faut effectivement s'associer avec quelqu'un comme Rebeu Déter qui lui a une portée assez extraordinaire pour pouvoir toucher d'autres. C'est ce que les Américains ont vite compris avec l'arrivée de Jake Paul, parce que très rapidement, des champions du monde actuels ont choisi de travailler avec lui et ont mis leur ego de côté. C'est-à-dire qu'ils se sont mis en undercard d'un combat où Jake Paul, il est main event. On a des mecs comme Régis Progrès qui n'ont pas hésité à faire des championnats du monde en étant co-main event, alors que le main event, c'était Jake Paul contre, je ne sais même plus qui d'ailleurs, Nate Robinson ou quelque chose comme ça.
Ouais, ça a inversé les tendances.
En fait, ils n'ont pas mis leur ego devant. Ils se sont dit, OK, le business aujourd'hui, c'est ça. Moi, ça va me permettre de continuer, de faire grandir ma notoriété et de me remplir les poches. Donc, je le fais sans aucun scrupule. Il faut qu'en France, on le comprenne.
Jean-Philippe, avant de te quitter, parce que tu as connu beaucoup d'époques aussi, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été lancées. Il y a Boutier qui avait lancé une Ligue Pro à l'époque. Il y a Carriès aussi qui avait dit qu'il fallait aller chez les amateurs et de ces amateurs les façonner tout de suite pour que ce soit des bons professionnels. Quelles sont les initiatives qui, aujourd'hui, pourraient permettre à la boxe de repartir comme on a envie qu'elle reparte?
Déjà, je vous ai parlé de Palatina, qui est une première initiative. À fonds privé que dirige Franck Picotra, contre l'ancien champion d'Europe des super moyens. Il y a un calendrier pour permettre une visibilité, trouver des partenaires. Il y a Barrière qui va les accompagner, le groupe Barrière, donc ça c'est formidable. Il y a ce type d'initiative. Est-ce qu'aujourd'hui, la Ligue Pro, c'est un échec? Voilà, ok, ça pourrait être sujet d'un prochain débat, d'une prochaine émission. D'accord, ces initiatives-là, n'oublions pas, il faut que dans cet univers-là, il faut une connaissance pointue de la boxe. Il n'a pas beaucoup, donc ça veut dire être immergé, mais s'associer à des financiers qui se disent, tiens, j'investis maintenant parce que je sais que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y aura des retombées, parce que la boxe est porteur de valeur, parce que c'est un sport historique, enfin il y a 50 raisons qui font que ce sport est unique et qui séduit autant. Donc il y a des initiatives qui sont mises aujourd'hui, et il faut sensibiliser même des gros médias aujourd'hui, parce qu'au sein des gros médias, il n'y a pas de sensibilité boxe particulière. Il y a une sorte de méconnaissance de ce sport. Oh, la boxe, on comprend pas, c'est un peu confus. Oh, c'est quoi les champions? Et on a du mal à comprendre ça. Ouais. Donc, il y a une remise en question, comme je le dis, et établir des initiatives privées qu'il faut encourager, qui sont indispensables aujourd'hui, et s'appuyer sur un savoir-faire local. Mmh. Parce qu'en région, il y a des clubs comme Charleville-Mézières, la famille Habib Zaïm et tout cela, qui savent faire. Ouais. Et il faut s'appuyer sur ce savoir-faire pour avoir une vision plus globale, nationale, et développer les boxeurs. Mais il faut avoir confiance. Voilà, honnêtement, avec de l'énergie, du bon sens, de l'envie, et puis surmonter les obstacles. Voilà, les amis.
Et voilà un message positif de Jean-Philippe Lustig. Merci, Jean-Philippe. On te laisse rejoindre les pistes.
Merci.
Attention, pas de traces de bronzage sur le visage. T'es au Grand Palais dans 2 jours.
Non, t'inquiète pas. Je serai présentable jeudi sur le ring. Salut à tous.
Merci d'avoir été avec nous. Salut, Jean-Philippe.
Ouais.
Merci. Bye-bye. Intéressant, et en fait c'est ce que t'avais ce que dit Jean-Philippe, c'est ce que Yacine et ce que ici on avait commencé à dire, le nerf de la guerre c'est les médias, c'est la diffusion, c'est la communication, c'est ce qui a quand même beaucoup changé. Est-ce que avant, d'après vous, un mec qui était justement, comme on disait, qui avait le meilleur crochet du gauche, il allait devenir le meilleur boxeur quoi qu'il arrive, alors qu'aujourd'hui il faut une partie média, une partie communication qui prenne aussi un petit peu d'importance par rapport au niveau pur de boxe? Est-ce que ça s'est un petit peu inversé, ces tendances-là?
Oui, moi je pense que oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est important d'avoir une présence, c'est important de pouvoir dire que t'es bon, de pouvoir montrer certaines choses, que ce soit sur tes réseaux, etc. On a des combattants qui l'ont parfaitement fait, on a un Bilal Chikitou qui a bien épousé le virage viral, entre guillemets, donc qui a su s'imposer sur cette scène médiatique. Si tu regardes le MMA, t'as un Paul Dena qui a fait ça, enfin tu vois, dans tous les domaines, tu vas voir quelqu'un qui monte, qui n'a pas encore accompli, dans le sens où Bilal n'est pas encore devenu champion du monde, mais en tout cas, il a montré que ça doit fonctionner, ce genre de choses. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que ça reste un sport et que tout se passe dans le ring.
Yacine, vas-y, je t'en prie.
Et il a exactement raison, Baba. Aujourd'hui, si on n'est pas connu sur les réseaux sociaux, on disparaît complètement. On a aussi des combattants qui sont exceptionnels, qui ont le niveau mondial, notamment Michel Soro, qui va faire un championnat du monde en Côte d'Ivoire, IBO, mais qui est peu connu du grand public parce qu'il ne s'expose pas assez sur les réseaux sociaux. Et c'est une volonté de sa part. On a des combattants beaucoup plus introvertis, mais très, très forts techniquement, et qui tapent la rat tous les jours aujourd'hui, et de niveau mondial. On a eu un Arsène Goulamérian aussi qui était peu exposé aussi sur les réseaux sociaux et qui gravitait avec le très haut niveau. Aujourd'hui, si ces boxeurs-là ou si les boxeurs de niveau mondiaux étaient accompagnés médiatiquement avec un investissement sur eux-mêmes, parce que l'investissement, c'est à eux de le faire, c'est leur image, la France irait très 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 bien.
Il y a justement aussi les régions dont t'as parlé, Jean-Philippe. Il y a plein d'axes en fait à aborder, donc je vais commencer par celui-là. Mais je me suis noté hier les champions de France dans plusieurs catégories. Et sincèrement, je pense qu'on va se rendre compte, alors peut-être que vous en aurez certains, mais je pense qu'il y en a très peu qui sont connus du grand public.
Non,
et même quasiment aucun. Je pense que le seul qui peut avoir un nom, qui peut être un peu connu, c'est Raphaël Moni chez les Milours.
Voilà. Et Hugo Morel, on en entend parler.
Hugo Morel, on en avait parlé ensemble, Baba, dans l'épisode de Prospect sur la boxe anglaise. Sinon, Hassan Hamzil, Théo Tikou, Sionoa et Winterstein, Sofiane Abdeljabbar, Ephraim Barrico, Luca Migotti, Kaosu Sissé, Matar Garcia, qui est, je crois, chez les Lourds. C'est des noms de gars qui sont actuellement champions de France et que, sincèrement, pour ma part, je ne connaissais pas.
Et parmi ces noms, on a aussi un Olympien.
Ouais.
On a un Olympien qui a fait les Jeux Olympiques 2016, mais qui n'est pas connu encore du grand public.
Ouais,
et qui est un excellent, Hassan Hamzil, c'est un excellent combattant. J'ai combattu en éducative avec lui, à ses côtés. Et on a d'excellents boxeurs. Tous les boxeurs qu'a aussi, c'est aussi donné sous bois. J'en profite pour saluer Nasser Lalaoui. C'est un excellent club.
Mais la visibilité n'est pas là, elle manque.
Elle n'est pas encore là. Mais on a aussi des boxeurs, quand on parle, comme Mustapha Zaouche, qui essaie de se montrer sur les réseaux sociaux avec une ADN particulière à lui et qui essaie de s'ouvrir au grand public, avoir une notoriété.
Qui avait fait une carte de Bakary Samaké aussi, je crois.
Exactement. Et dernièrement, qui a boxé à Pont-Saint-Maxence, qui a distribué des Svench.
Des Svench, ouais.
J'ai trouvé ça sympa.
Ouais.
Svenchman, c'est son nom. Et en fait, à la fois, il est sportif, il est très bon et il essaie de se faire connaître par le biais d'Instagram. Et c'est ces transversalités-là qui feront que la boxe intéresse. Aujourd'hui, le grand public connaît Bilal Chkitou. Ils connaissent Bilal Chkitou parce que déjà, avant la boxe, il était connu sur Snap.
On en revient à la même chose.
Avant la boxe, il était connu. Après, il est issu d'une fratrie de boxeurs. C'est quelqu'un de très, très gentil. Et il a su créer des très bonnes activations avec soit des joueurs de foot, soit avec des rappeurs connus, soit avec une industrie qui lui ressemblait. Et c'est quelqu'un de valeur. Donc du coup, quand tu as quelqu'un d'authentique, de valeur et qui aime ce qu'il fait, tu as envie de le suivre. Tu as envie de devenir comme lui. Quand tu as quelqu'un qui est souriant, qui est gentil et qui est bosseur. Parce que Bilal, il est aujourd'hui le numéro 5 ou numéro 6 WBC, mais il est résilient. Ça fait 15 ans qu'il bosse.
Ouais.
Et avant d'être un amateur, il bossait avec Rachid. Il se faisait frapper à la maison. Non, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est 200 ou 300 000 followers.
Ouais,
c'est du boulot. Il y bosse tous les jours.
Ouais.
Là, il m'a fait rire parce qu'il était avec... dernièrement, il a fait un...
C'était très, très,
très, très marrant. J'ai rigolé.
Le nom aussi m'échappe, mais ouais, en gros, ce monsieur le critiquait sur Internet, donc il l'a fait venir et il l'a fait chanter.
Et il l'a mis KO okay. Et après, il l'a fait... Mais c'est un mec de Twitch qui est assez connu, qui le critiquait en disant qu'il a des ceintures en chocolat. Donc il a remis les esprits en place et en même temps il l'a fait chanter sur du Vita.
Ouais, exact.
Sur du Vita, pas sur du Cindy. Et ça m'a fait rire.
Ah ouais,
et du coup,
c'est très marrant.
Tu t'y intéresses. Là, derrière, il dit oh, on dit que je suis un ceinture au chocolat. Il a fait Bilal et la chocolaterie.
Ouais.
En fait, c'est avoir de l'imagination et pouvoir que les jeunes s'identifient à toi, les jeunes et les moins jeunes. Et l'univers de Bilal. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'identifient à lui parce qu'il est issu des quartiers populaires, parce qu'il est gentil,
mais
parce qu'il est fédérateur.
C'est la force des réseaux sociaux. Parce
exactement.
Que j'en veux aussi l'exemple de Ciel Benzaken qui a plus de 100 000 followers, je crois, sur Instagram, 100
exactement.
Ou 150 000. Mais potentiellement, quelqu'un qui suit Bilal Chkitou et Ciel Benzaken va dire « Ah, ils font le même sport ». Tu vois, il fait de la boxe, mais sans savoir qu'il fait du pied-point, il fait de la boxe anglaise. Il y a peut-être du coup un désintérêt pur du sport qui se fait à travers ces followers qui suivent que le contenu qui est proposé, mais qui ne vont pas suivre le reste.
C'est un contenu complètement différent, parce que les personnes qui suivent Cyril ne sont pas forcément les mêmes personnes qui suivent aujourd'hui Bilal.
Bien sûr.
C'est deux publics complètement différents, mais qu'on peut rassembler autour d'une soirée. Et c'est là notre objectif, nous en tant que promoteurs, de rassembler différentes personnes. Là, on parle de Bilal, mais il y a aussi Khalil El Adri, qui fait des activations avec le PSG.
Ouais.
Qui est un excellent combattant, qui est aux portes d'une ceinture verte.
Ouais. Il ne
faut pas oublier, qui est made in Muro 100%. Il a fait sa finale de championnat de France amateur contre Sofiane Oumia. Après, il a boxé à haut niveau pendant longtemps. Là, pendant ses derniers combats, ils se sont super bien passés. Et là, il est aux portes de la ceinture verte et qui se fait connaître aussi par le biais des réseaux sociaux, avec son public qui est aujourd'hui le PSG.
Mais moi, j'ai une question aussi qui va aller un petit peu au-delà de ça, parce que bon, c'est pas, je le dis de façon assez triviale, mais ça fait 10 minutes qu'on tape, entre guillemets, un petit peu sur les boxeurs autour de la table en disant qu'il faut qu'ils se mettent en avant, et c'est vrai. Mais j'ai toujours tenu le même discours, moi, c'est qu'aussi un boxeur boxe et un promoteur promeut. C'est toi, aujourd'hui, tu es plus du côté organisationnel. Tu organises, mais ton accompagnement de Cyril, il fait qu'aujourd'hui, il est très exposé. On le voit, moi je vois beaucoup, que ce soit LinkedIn, que ce soit dans certains cadres, enfin on le voit sur beaucoup de canaux différents. Et ça, c'est un travail de toi et de ta team qui fait que ça fonctionne. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a des choses à activer aussi, moi je crois, du côté promotionnel. Est-ce que toi, demain, si tu embrasses plus cette route-là, c'est-à-dire la route promotionnelle où tu vas avoir une écurie de combattants et que donc tu vas devoir les mettre en avant quelque part.
C'est mon objectif.
Est-ce que toi, c'est quoi ton c'est-à-dire ton jugement, c'est dur comme mot. C'est quoi ton analyse aujourd'hui justement du monde promotionnel de la boxe ? Côté promoteur en fait.
Côté promoteur, moi, qu'est-ce que je ferais si...
Ton analyse de ce qui se fait aujourd'hui en fin de compte.
Bah, j'ai pas envie... Pour être très franc avec toi, aujourd'hui, il n'y a pas de promoteur.
Ouais.
Je vais pas faire une analyse qui n'existe pas aujourd'hui. Et à l'époque où il y a des promoteurs, les promoteurs, eux, promuent uniquement leur soirée et pas les combattants.
C'est ça.
Nous, ce qu'on a essayé de faire là dernièrement, quand je me suis décidé de me lancer à Ster Events, Ster, c'est l'escalier. Events, c'est événementiel. Pour moi, ce que je veux, c'est l'escalier social pour le combattant. J'ai organisé mon premier championnat du monde de boxe anglaise avec Roman Moulet. Ce qu'on a voulu faire, c'est l'exposer. Sur Marseille, maintenant, elle est connue. Ouais. On a fait une activation avec l'OM, on a fait une activation avec la mairie de Marseille, avec la région. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est pas Roman qui l'a fait, elle doit boxer. Mais par contre, elle a toujours répondu présente aux médias, aux conférences de presse.
Ce rôle-là, bien sûr,
elle a toujours joué le jeu. Ouais. Elle est venue au stade Vélodrome, elle a sifflé, elle s'est fait connaître. À la veille de son combat, elle était là, elle était avec pas mal de... Mais ça émane de l'énergie.
Ouais.
Quand t'es boxeur, c'est dur aussi. Tu peux pas... Moi, des fois, je la voyais, elle était fatiguée. J'ai dit, putain, Roman, t'es fatigué et tout, tu veux qu'on annule ? Elle me dit, non, Yass, c'est pour moi. Et moi, ce que je veux, à travers ma promotion, si je me lance en tant que promoteur de boxe anglaise, c'est m'occuper en 360 des combattants.
Ouais.
Tu peux pas dire aux combattants, débrouille-toi, tu vas être connu. Non, c'est notre boulot. Déjà, ils combattent, ils font des sparring, ils ont des régimes, ils ont une vie de famille. C'est dur. En plus, pour les femmes, ils ont tout l'univers qui va à côté. C'est encore plus dur de se reconnaître. Et avec ma team, on a pris Roman, on a dit, écoute, on va essayer avec Roman, c'est Marseille, on maîtrise, on est à la maison. Elle n'est pas du tout connue. Après, le 8 février, au moins elle aura ses accès à l'OM. Mmh. C'est quoi Marseille, c'est l'OM. C'est ce qui s'est passé. On a créé plein d'activations et derrière, elle est figure féminine de l'OM.
Et d'ailleurs, ce que tu nous disais, donc ça rejoint tout à fait ce que dit Baba, en fait, un boxeur boxe et un promoteur promeut, et chacun, un entraîneur entraîne, chacun reste à sa place, mais si t'es bien entouré, tu peux réussir à faire
un 360.
Un combo
comme tu l'as dit, travailler en équipe, bon. Et t'associer, en fait.
Voilà. C'est pour ça que je veux m'associer, moi.
Voilà, alors justement, c'est ce que tu nous disais juste avant de prendre l'antenne tout à l'heure. C'était simplement que toi, tes boxeurs, tu veux les considérer comme des associés et pas comme des gens avec qui tu travailles. Tu veux qu'ils soient complètement impliqués dans le projet.
Exactement.
Et que ce soit un projet qui soit imbriqué pour le promoteur et pour le boxeur.
On a 13 ans de travail aujourd'hui avec Cyril. 13 ans, on arrive au Grand Palais. Et je peux te dire que si on n'avait pas ce projet ensemble, d'associer, ça ne marcherait pas. Il y a toujours un intérêt. Là, l'intérêt, il est commun. On n'est pas toujours sur la même ligne éditoriale sur certains sujets, mais on est ensemble.
C'est l'image des promoteurs grand public qu'on a, c'est Don King. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était impliqué dans, si vous avez vu le film Michael, il était impliqué dans une des tournées, enfin en tout cas, il discutait avec le père de Michael Jackson qui prenait en exemple Don King. Donc c'est aussi intéressant de voir ça et aller voir le film si vous ne l'avez pas vu, c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Don King, en France, le plus connu peut-être en boxe anglaise, c'était les frères Acariès.
Ouais, mais
est-ce que c'est l'image des promoteurs, des organisateurs que toi tu as envie aussi de faire perpétuer, ou c'est une image un petit peu différente que tu as envie?
Mais on est sur une nouvelle génération, on est sur l'ère digitale. À l'époque, il n'y avait même pas Google. Quand Michel et Louis sont venus, il n'y avait que Canal. Canal faisait partie des chaînes numéro 1. Et quand on avait un champion comme Anaclet Wanba, il passait partout. L'équipe jouait le jeu sur les journaux. C'est une autre ère. Là, on arrive sur une autre dimension. Sur une autre dimension, on est plus dans la com, on est plus dans la strat, on est plus dans le storytelling. Alors qu'avant, il y avait du storytelling. Mais on est complètement différent. Là, c'est complètement différent. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui.
Ouais,
moi, Michel, c'est avec Michel que j'ai commencé.
Michel Acariès.
C'est avec Michel Acariès que j'ai commencé.
Ouais.
Et il m'a mis, tiens, viens, Yass, il y a Seb, allez.
Sébastien
Acariès. Allez-y, travaillez. Non, c'est pas comme ça. Non, Seb, hop. Et c'est avec eux que j'ai commencé.
Ouais.
Donc, on n'était même pas à l'ère de Facebook. 2009, 2009-2010, c'était le grand tournoi. On crée des histoires avec Mehdi Amar, Robert Roselia. Il y avait
Hassan Endam,
que je salue.
C'était super.
C'était un grand champion, Hassan. Ouais, ouais. Et à partir de là, voilà, on a fait avec les moyens du bord. Là, les moyens ont complètement changé.
Pardon Yacine, mais justement sur cet article de 2009 dont je parlais, par exemple, alors lui pas forcément exemple à suivre, mais Humbert Forgoni, qui était le patron de la Fédération française de boxe anglaise, disait que d'après lui, il n'y avait que 5 boxeurs en France qui vivaient bien de leur sport, qui pouvaient se permettre de ne pas travailler à côté, qui pouvaient vivre à 100% de ça. Est-ce que paradoxalement, finalement, aujourd'hui, il n'y en a pas plus parce que les canaux sont plus nombreux, parce que les sources de revenus peuvent être liées à la boxe, tu vois, via les réseaux sociaux, par exemple, un Bilal Chkitou qui peut être et consultant et qui peut faire du contenu sur ses réseaux et ramener des sponsors grâce à ses réseaux. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup plus que 5, même si on dit que c'est un sport qui est en train de mourir ?
Certes, mais pas grâce à la boxe.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Ouais, mais pas. S'il y en a un, Christian Billy.
Ouais.
Christian Billy qui gagne sa vie grâce à ses cachets.
Tony Yoka,
il
en a vécu, mais qui se relance actuellement.
Tony, c'est un excellent boxeur, mais derrière un boxeur, il y a une équipe, il y a des coups, il y a des camps de préparation, il y a une famille. Donc du coup, quand tu accumules, c'est quoi vivre ? Vivre. Les boxeurs en France aujourd'hui, ils survivent. Je connais pas un boxeur actuellement. Il y a Milan Pratt grâce à ses partenaires qui arrivent à en vivre pleinement.
Mais donc quand c'est des partenaires, c'est directement lié à la boxe.
Mais c'est des partenaires fans qui veulent faire évoluer le boxeur. C'est plus du côté humain et social.
Et c'est hyper bancal. C'est-à-dire que si le partenaire, pour X ou Y raison, son business bat de l'aile, la première chose qu'il va faire, c'est couper le soutien au boxeur. Donc il n'y a pas du tout de certitude. T'es vraiment, tu marches sur des œufs. Ton cachet, c'est ton cachet. Ton cachet, c'est ce qui est censé te faire vivre. Au moins, c'est clair. J'ai une vision, j'ai un combat qui arrive là. J'ai une prépa qui va durer tant de temps. Quand je vais combattre, je vais toucher mon cachet. Et ce cachet, a priori, il devrait pouvoir me faire vivre. Parce que je vois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Ouais, mais tu prends tel combat, t'as quand même pris 20 000 euros. Oui, mais toi, tu prends plus à l'année. Lui, c'est peut-être qu'il est son seul combat dans l'année.
On va revenir sur un chiffre. Voilà, t'as dit un chiffre aujourd'hui, Baba, 20 000 euros. Aujourd'hui, un combattant qui fait un championnat d'Europe, EBU, qui est très bien payé, il va gagner 20 000 euros. Ouais. Dans les 20 000 euros, il a déjà 20% à son coach. On retire 20%, 16 000. Dans les 16 000 euros, il y a souvent un matchmaker qui prend 10%, 1 600. Il lui reste 15 000. Sur les 15 000, il a 3 mois de préparation. Dans les 3 mois de préparation, tu dois payer ton sparring, tu as l'essence.
Ouais, et puis si tu dis 20 000,
tu manges, tu as 2-3
lignes fiscales qui se déduisent en plus, donc qui t'enlèvent aussi quelques milliers d'euros.
Je retiens. Non, mais avant,
net, disons net, okay, net, si c'est net. Ouais.
Non, tu vas au Sierra Nevada, tu n'as plus rien. Ouais. Ta préparation, elle t'a coûté zéro. Tu n'as rien gagné. Les champions d'Europe, t'as gagné 20 000 euros, mais il te reste quoi à la fin ? Zéro.
Et après, ouais, effectivement, une fois que tu récupères ta ceinture sur l'épaule, là, tu vas à la chasse au sponsor et tu vas commencer à espérer. Ouais, bah, tu vois, on avait reçu Rima Ayadi.
C'est ce que j'allais te dire.
Il nous expliquait que la majorité de sa préparation, elle consiste à courir derrière des financements pour pouvoir organiser elle-même ses championnats.
Et elle le fait très bien.
Ouais.
Mais elle le fait très bien et c'est très dur pour elle aussi.
Et souvent, ces sponsors-là sont des sponsors très locaux.
Exactement.
Si on est en région lyonnaise, par exemple, ça va être le gros concessionnaire de telle marque de véhicule qui va mettre un badge sur ton short. Ça peut être des choses comme ça.
C'est exactement ça, et c'est surtout sur l'humain. C'est que sur l'humain. Aujourd'hui, on va sponsoriser un boxeur parce que il nous ressemble, parce que la personne qui nous a coopté ce boxeur-là, et c'est même à notre échelle. Cyril, aujourd'hui, les partenaires qu'on a, c'est que pour Cyril, sur l'événement. Si moi, j'avais décidé de mettre en avant uniquement un autre champion français, j'aurais pas pu faire le Grand Palais. Un Sami Sana, aujourd'hui, j'aurais pas pu remplir en partenariat. Enfin, mes partenaires que j'ai aujourd'hui n'auront pas suivi pour d'autres combattants français.
Ouais. Les partenaires, justement, à quel point est-ce que c'est une emprise qui peut s'avérer malsaine ? Parce qu'on l'a vu avec Canal+, 2009, Brahim Masloum prend sa retraite. Il n'est pas revenu d'ailleurs, il n'y a pas eu de retour de retraite pour lui, il est parti dans autre chose, promoteur, consultant, etc. À quel point est-ce que ça, c'est dangereux, par exemple, d'avoir un partenaire qui est unique ? Canal+, qui couvrait la boxe, qui a décidé de se désolidariser de la boxe, a, entre guillemets, fait mourir la boxe pendant toutes ces années. Est-ce que justement trop miser sur un diffuseur, puisqu'on s'est dit, hein, même avec Jean-Philippe, ensemble, la solution c'est ça, c'est quand même la communication, les diffuseurs qui suivent, etc. Être trop lié à un diffuseur, est-ce que c'est pas trop dangereux pour un sport ?
Je réponds très brièvement, mais je vais laisser Yacine développer, parce que c'est le business, mais on vient de le voir. On vient d'avoir un exemple le week-end dernier, là. C'est
DAZN,
Tony Yoka. C'est prégnant. Voilà. Il a annulé une carte entière parce que lui, il n'était pas venu pour les gros talents français qu'on avait sur la carte.
Rappelle simplement ce qui s'est passé, mais DAZN qui devait Queensberry, Tony Yoka contre Laurent Soccoli. Laurent Soccoli testé positif à une substance dopante. Tout le gala est annulé, sachant qu'il y avait aussi, par exemple, Bakary Samaké qui était sur cette même carte. Et c'est quoi, une semaine avant ? Toi, t'étais en vacances en plus.
Trois jours avant.
C'était dans la semaine.
J'ai trouvé ça tellement irrespectueux.
Bah oui.
J'ai trouvé ça tellement irrespectueux vis-à-vis de tous les combattants français et ça. Notamment via. Franchement, moi, je serais le président de la fédération. Je dis, écoute, soit tu organises, soit tu viens plus. Il y a 8 autres boxeurs. Il y a Khalil El Adri, il y a Enzo Marguerite, il y a Bakary Samaké, il y a d'autres boxeurs. Et même Tony, il n'a rien demandé. Il était là, il était prêt.
Et justement, alors plus globalement, pour essayer de répondre un peu à cette question, est-ce que être trop lié à un diffuseur qui a tous les pouvoirs, c'est pas trop dangereux pour un sport ? En tout cas, pour ce sport-là, est-ce que pour la boxe, ce serait trop dangereux ?
Je vais être. Faut que la promotion soit plus forte que le diffuseur.
Ouais. Exemple UFC.
Exactement.
Qui jamais n'annulera un événement s'il y a un combattant qui est out.
Ils l'ont fait avec Jones une fois.
Voilà, c'est ce que c'est pour ça que. Après mon jamais, j'ai un tout petit peu hésité.
Mais aujourd'hui, ça vaut plusieurs milliards la diffusion. C'est un autre monde.
Ouais, mais il faut que ton événement soit plus fort que ton combattant.
Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire qu'en gros, une fédération ne sera jamais plus forte qu'un combattant. On ne va pas dire, parce que la WBC, par exemple, en association avec DAZN, est derrière un combat, derrière un événement, même si le main event saute, on laisse tout le reste. Tu vois, ça paraît hyper compliqué dans le monde
d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de parties prenantes. Et là, dans le cas qui nous anime aujourd'hui, on l'a vu, parce que la carte était forte. Tu peux pas me dire que la carte, elle n'était pas forte.
C'est l'une des meilleures
cartes. C'était du lourd. C'était du très lourd. Il y avait des talents, il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait des storytelling différents. Tu avais un retour de Yoka, tu avais l'ascension de Bakary, tu avais des talents français qui arrivaient.
Okoli qui a été aussi l'Orléans, qui était champion du monde léger. C'est un bon gaucher, ça frappe fort.
Il n'y a pas de raison.
Tony n'a pas reculé.
Il n'y a pas de bonne raison à faire ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de bonne raison.
Franchement, pour moi, c'est un manque de respect. Et c'est là qu'on prouve aujourd'hui que même chez nous, on ne se fait pas respecter. Et c'est à nous de se faire respecter. Et tu ne peux pas arriver dire à tous les boxeurs, les meilleurs boxeurs français, venez chez moi, dans ma promotion, on va organiser chez vous. Et vu que l'anglais ne vient pas, on annule tout. Ça veut dire quoi ?
Et pour l'image, c'est terrible, parce que finalement, en faisant une grosse carte comme ça, tu arrives à mettre beaucoup de gars sur la même carte. Ouais, mais tu fais, t'avances, tu fais plusieurs pas en avant, et finalement... Là, tu fais 15 000 pas en arrière. C'est-à-dire que toute l'avance que tu pouvais prendre sur cette carte-là, tu recules énormément.
Mais au-delà de l'image, c'est un manque de respect pour les combattants. Les combattants, ils n'ont rien demandé.
Bien sûr,
ils sont là, ils se sont préparés, ils voulaient en découdre. Ils ont mis leur vie de famille de côté. Ils ont fait une grosse préparation pour pouvoir briller chez eux dans une belle carte diffusée sur DAZN. Et là, une seule personne, en plus, il est en tort, il est dopé, on annule le combat. Oh. Arrive un moment, il faut arrêter.
C'est terrible. Voilà.
Et attends, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de remplaçant, parce qu'une industrie comme Queensberry, ils savent.
Ils en avaient, mais le diffuseur a décidé que ça ne valait plus la peine, parce qu'un nom, et c'est Okoli. Okoli, il a une belle carrière, mais je lui manque en aucun cas de respect, mais Okoli, ce n'est pas Anthony Joshua. C'est pas Tyson Fury, c'est pas Alexander Usyk. Attention, c'est un champion cruiser qui a une belle carrière, mais il venait défier Yoka chez lui.
Voilà, exactement. Et il ne faut pas oublier que Tony, il est quand même champion du monde amateur des poids lourds, champion olympique des poids lourds. Il ne faut pas oublier qu'il a une carrière. Certes, il a perdu contre Bacolé. Certes, il a perdu contre Bacolé. Et il a une série de défaites. Mais il ne faut pas oublier.
Et vous, c'est vous qui avez combattu dans différentes disciplines, vous savez ce que c'est, surtout d'être en amateur et de réussir à tirer son épingle du genre d'amateur.
Et avant d'être champion du monde en 2015 aux amateurs, il avait une année noire. Il ne faut pas oublier. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'il y a plein de champions qui ont éclos. qui il a mis quand même la boxe en avant, lui et sa femme, à travers les Jeux Olympiques, son ex-femme, Mosley, ouais. À travers les Jeux Olympiques, c'est eux qui ont redynamisé la boxe anglaise. Et je pense que moi, dans les années à venir, notamment en 2028, on va avoir ce même effet.
Ouais. Estelle Mosley d'ailleurs, qui devait aussi combattre sur une carte d'Iman Kelly,
annulée, pareil.
Et qui finalement est annulée à une semaine ou 10 jours d'intervalle de l'annonce sur Tony Yoka.
Donc, et Iman Kelly, qui est une grande championne algérienne, avec une grosse communauté, elle a fait parler d'elle par le sport, on a tout un peuple derrière elle. Et il n'y a pas que l'Algérie, il y a l'Afrique entière, et le monde entier.
Alors,
parce que pour moi, c'est fort. Elle s'est fait taper dessus par tout le monde. Mmh. Elle a réussi à gagner sur le ring.
Et là, aujourd'hui, Brahim Masloum, qui est derrière.
Exactement. Brahim, il est derrière. Et Ahmed aussi, son manager, Saïf, son manager en image, qui est très, très, très bien géré, Iman Khalif.
Au niveau des diffuseurs, alors, quelle est la meilleure solution pour vous? Un très gros diffuseur qui couvre un peu toute la boxe et où on sait où aller si on veut voir de la boxe? Ou alors, justement, des audiences un peu plus diluées, mais qui peuvent permettre aussi d'en avoir plus, de pouvoir avoir plus d'organisation, de pouvoir avoir plus de champions, plus de boxeurs? Quelle est la meilleure solution, finalement?
Pour moi,
Je crois que je dis pas de bêtises en disant que c'est chez France Télé que ça va être diffusé.
Ouais.
Exactement. Bah moi, ça passe par là. Ça passe par une plus grande diversité de diffuseurs. Aller chercher des diffuseurs qui d'habitude ne font pas ça en fait. Moi, j'ai grandi. Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vu Laurent Boudouani sur TF1. Je l'ai vu moi et c'est.
On a du mal à s'imaginer de la boxe et sur TF1 aujourd'hui.
Mais j'ai suffisamment vieux aussi pour avoir vu Danny en Muay Thai sur TF1.
Et puis à l'époque c'était limite, t'étais chez toi, tu mettais ton costume, c'était une grosse soirée.
C'était
une
soirée de fou,
c'était
un truc,
tu disais « Waouh,
Jean-Baptiste Mendy et tout, moi j'ai vu un des mecs combattre, aujourd'hui personne ne s'en souvient. »
Arthur Robert, il me dit « Il est si vieux que ça, papa ?» Mais en fait, faut redire, Canal prend la boxe dès 84, donc il y a Charles Bietri, il y a Jean-Philippe Lustig qui était déjà dans le giron, il y a tout ça, et puis TF1 c'est fin 90 début 2000 je crois, c'est ça que,
ouais c'est ça, doit, 92, ça 93 ça, je crois ouais, que, ouais, que, donc, que c'est quelque chose comme ça. Donc, pour revenir sur ce que fait Yacine, c'est audacieux d'aller chercher France TV. Moi je trouve que c'est bien qu'ils le suivent, je sais pas comment ça s'est passé mais chapeau, parce que ça a pas dû être si simple que ça pour les convaincre, mais en tout cas c'est super bien parce qu'ils diffusent la boxe. En fait les étés ils arrivent, il y a les JO, ils diffusent des trucs, ils diffusent le Tour de France, ils diffusent je sais pas quoi, puis après on se dit la boxe non.
Donc réponse de Baba, ça passe par des diffuseurs très mainstream qui derrière pourront permettre à plusieurs diffuseurs d'exister. Par exemple, si nous RMC Sport, on est une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne APH, parce qu'il faut payer 15€, 20€ par mois pour pouvoir le voir.
Par exemple.
Est-ce que c'est un produit d'appel que de le mettre sur des TF1, sur des France Télé?
En fait, si tu veux, c'est pour répondre vite et laisser Yacine répondre, c'est juste que le fait de pouvoir aller chercher un diffuseur comme France TV, je me dis que c'est ce qui va rendre ta promotion plus forte que ta diffusion, parce que l'intérêt de France Télé, ça change tout. Là derrière, des spécialistes comme nous ou comme d'autres. Certains de nos concurrents vont se dire « Attends, France TV, ils ont été chercher ce truc-là pour le diffuser. » Bah, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Et nous, qui sommes spécialistes, qui sommes vus comme les gars qui diffusent le combat, on ne diffuse pas ça. Ouais, peut-être que là, on s'est trompé.
Mais est-ce qu'en boxe anglaise, il y a déjà eu des marques, le One en pied-point et en MMA, l'UFC, tu vois, en pied-point, le Glory, par exemple aussi. Est-ce qu'en boxe anglaise, tu serais capable de dire, par exemple, « Tiens, c'est une soirée de telle organisation ?» sans trop savoir qui sont les boxeurs, est-ce que c'est un modèle qui marche en boxe?
Mais c'est là où c'est important, c'est que moi je m'en fous de l'organisation.
Ouais, mais est-ce que ça marche en boxe
anglaise? Oui, parce qu'en anglaise, pendant des années en anglaise, on s'en fout de savoir si c'est. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre que c'est ou Bob Arum.
Ouais, aujourd'hui, on en bouffe tout le temps. On va sur les réseaux sociaux, il y a de la boxe qui a eu lieu quelque part. Avant, c'est comme tu le disais, t'avais pas les réseaux sociaux, t'allais devant ta télé, tu savais que si tu voulais voir de la boxe, c'était la seule option, c'était là où t'allais dans la salle.
Non, mais sur la diffusion, je suis d'accord avec toi, mais sur le fait que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui monte l'event.
Mais comment
faire ça en anglaise? Moi, c'est les boxeurs qui... Aujourd'hui, le MMA, ils ont apporté le truc de dire l'UFC, c'est important. Tu sais, on est sur la marque, on est sur l'organisateur qui est plus fort que les combattants. Moi, je veux simplement que l'event qui soit monté, il soit plus fort que les diffuseurs, il soit plus fort... Je suis un diffuseur, hein. Pardon, mais tu vois ce que je veux dire. Là, c'est le fan qui s'exprime parce qu'on est dans ce truc-là et je veux qu'Yacine il donne son avis là-dessus. Mais moi, en tout cas, ouais, c'est de me dire que quand je grandissais et que j'étais un grand fan de boxe, j'ai compris bien plus tard que c'était Top Rank, que c'était Don King. Même si je le voyais l'autre avec sa coupe, je comprenais pas bien son rôle parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir Mike Tyson. Ouais. Lui, il est gentil avec ses drapeaux, mais c'est Mike Tyson qui m'intéresse, c'est pas Don King.
Bah pour moi, le diffuseur, vraiment, c'est politique. Si on veut vraiment développer la boxe en France, il faut que ça soit une décision politique à l'échelle présidentielle. Si on veut vraiment éclore des talents, là, on va avoir pas mal de talents au jeu 2028. On a César qui arrive, il va faire une médaille d'or. On a Roman Moulay qui va faire une médaille d'or. C'est deux prospects déjà.
Christophe Hippocrate qui...
Là, Roman, elle a fait deux au Brésil.
Ouais.
On va avoir des gros prospects.
De voir, ouais.
Si derrière, avec ces deux gros prospects, on n'arrive pas à travailler et que le président, en 2028, qui changera, je pense, il ne dit pas, bon, il faut qu'on y aille. C'est la fierté nationale. On y va, on les aide. Il n'y arrivera pas. Ça ne sert à rien. Tu peux monter, tu peux avoir tous les diffuseurs du monde. Tu peux avoir tout. Tu vas dépenser. Ou un gros partenaire qui est fan de boxe, mais uniquement fan, qui ne va pas rentrer sur ses sous. Sur 10 ans, il va la redynamiser. Mais on l'a eu. On a eu le cas de Malami Kone, qui a redynamisé la boxe aussi. C'est grâce à lui qu'après, les diffuseurs sont arrivés. Il a monté quand même Kevin et Sadjo, à l'époque Kawhi Toutain. Il a redynamisé Hassan Endam, qui était en perte. Il est venu, Malamine, il a fait du bien à la boxe. Mais les ronds qu'il a perdus, voilà.
Et les problèmes aussi personnels qui s'impliquent là-dedans. Parce que tu as parlé de Kevin et les Sadjo, c'est aussi à cause de ses relations avec un de ses promoteurs que tout c'est un peu effrité pour lui. C'est à double tranchant. Tu peux te faire monter par un mec, mais derrière, ça peut s'écrouler aussi très vite.
C'est quoi un promoteur? Parce que si on pense de la même personne, pour moi, un promoteur, c'est quelqu'un qui organise pour et qui voit les intérêts de son combattant.
Ouais.
Les intérêts, c'est quoi? C'est la meilleure chose au meilleur moment, au meilleur timing. Et pas son ego. C'est ton combattant. Moi, aujourd'hui, et pour moi, aujourd'hui, le pauvre Kevin Ilesadjo, ou tous ceux qui sont passés par ce promoteur,
on parle de Yohan Zawi. Hein.
Non, mais moi, je ne donne pas de nom.
Non, mais bon, puisqu'on évoque des choses, on est obligé d'être transparent.
Pour moi, c'est trop dur. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui te bloque, mais qui ne peut pas faire mieux. C'est trop dur pour eux.
Ouais.
C'est trop dur. Si tu le bloques et tu fais mieux, ok, mais c'est trop dur. C'est pour ça qu'il ne faut pas bloquer les combattants. Il faut les associer. Et au moins, on y va ensemble. Regardez Anthony Joshua avec Izzy Hearn. Ils sont main dans la main depuis 2012 ensemble. Les longues histoires, c'est toujours...
Ils ont emprunté la même route et ils ont essayé d'aller tout droit ensemble.
Kunzberry, Fury, main dans la main ensemble.
Michel Acariès, dans cet article du Figaro que je citais tout à l'heure, disait « La boxe est issue d'un milieu sulfureux. Enlevez-lui ça et elle n'existe plus. » C'est Michel Acariès qui l'avait dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
C'est dur, mais... Alors, il a raison sur l'origine de la boxe.
Il a raison. T'attends Michel.
La boxe, c'est...
Faut être dur.
Voilà, la boxe aux States, la boxe et la mafia ont marché de concert pendant presque un siècle. C'est la vérité, c'est comme ça. On parle de toutes les belles histoires des poids lourds dans les années 60, on parle pas de Sonny Liston qui était un tueur pour la mafia, etc., etc., etc. C'est très compliqué, malheureusement. Maintenant, c'est un constat qui est un peu dur.
Mais c'était en 2009.
Voilà, ça date. Ouais. Le monde a changé depuis.
Ouais, mais
c'est une nouvelle ère.
Moi j'ai quand même encore l'impression que la boxe, quand on parle aux Jeux Olympiques, on se dit qu'il peut encore y avoir des arrangements entre amis. Que la boxe, ça reste quelque chose, ça reste un sport où on décide, tu vois, les promoteurs, les fédérations décident de placer des gars pour des ceintures, dans tel classement, etc. Ça reste un sport où tu es jugé. Il y a des juges qui vont juger ton combat et qui vont te donner vainqueur ou pas. Et en même temps, tu as des promoteurs, tu as des fédérations qui vont décider un petit peu de ton avenir. Donc, il y a forcément cette relation de copinage aussi.
C'est à l'image de notre société. Aujourd'hui, notre société est comme ça. On décide qui peut réussir, qui ne peut pas réussir.
Mais c'est un sport très dur à ce niveau-là.
Mais c'est un sport très dur. Pourquoi? Parce qu'il est populaire, parce qu'il vient d'en bas.
Et donc, est-ce que tu pourras enlever cette image sulfureuse?
Mais on peut, avec de la justice. Comment on est juste? En étant en prenant les meilleurs, en faisant rencontrer les meilleurs contre les meilleurs, voilà, en créant des vraies histoires. Et aujourd'hui, tout est possible. Mais ça, c'était en 2009. Et Michel, il a raison quand il dit que c'est un sport sulfureux. Dans ce qu'il dit, c'est un sport où, quand tu sors de ce sport-là, il te prend au trip. Si tu boxes, tu viens pas du 16e arrondissement ou d'un quartier riche, tu dis je veux être boxeur, je veux être champion du monde WBA. Voilà, tu as une histoire derrière. Et cette histoire te rend sulfureux. Tu as envie de réussir. Tu as une résilience en toi. C'est plus ce côté-là.
Ouais.
c'est pas ce côté noir, c'est plutôt le côté blanc. Ouais. Tu vois, faut voir le côté sulfureux où ils en veulent.
Ouais, bien sûr, c'est, oui, c'est ça, c'est pas la hargne de réussir.
Voilà. Oui, c'est pas des personnes lambda.
Ouais, mais alors, je pense que Michel Akiraz faisait beaucoup référence justement à ce que t'expliquais, Baba, la mafia très liée à ce sport-là.
C'est un sport rude, pour revenir sur l'exemple qu'on a vu le week-end dernier avec l'annulation du gala. Voilà, c'est un milieu qui peut te dégoûter parce que les relations sont difficiles et que les gens sont méchants.
On l'a vu aux Jeux Olympiques. On a vu que Nordine Oubali s'est fait voler, Alexis Vastine s'est fait voler à deux reprises, on le voit au quotidien. Mais on voit ça, et même dernièrement à Paris, voilà, on a eu deux médailles olympiques. Regardez derrière, les pauvres. Ouais. Bilal Benhamma, on a eu un poids lourd. Voilà, les pauvres. Aujourd'hui, il n'y a rien qui les accompagne. Qui les accompagne pour devenir pro et pour pouvoir évoluer, alors que tu vas en Angleterre. C'est automatique. La machine, elle est rodée.
Il y a encore 2-3 axes que j'aimerais aborder avec vous. Est-ce qu'on a besoin à tout prix qu'il y ait des champions pour que la popularisation de ce sport reprenne en France? Il n'y a eu aucun champion entre Alphonse Halimi en 1957, champion du monde, et René Jacquot en 1989. Année 90, il y a eu les frères Tiozzo, notamment, qui ont réussi à avoir une grosse image, qui étaient assez connus, qui étaient des stars en France. Fin 90, début 2000, des Julien Lorcy, Jean-Marc Mormec, Maillard Monchipour aussi, qui a réussi à apporter un peu de lumière à la boxe anglaise. Et puis les trois derniers en date, c'était Brahim Asloum, Nordine Oubali et Arsène Goulamirian. Mmh. Ça manque un petit peu de champions sur ces 15-20 dernières années. Est-ce que ça passera par là? Est-ce que si un Tony Yoka, est-ce que si un Christian Mbili bat, par exemple, bat Canelo Alvarez, est-ce que ça changera quelque chose?
J'aimerais bien te dire oui.
Putain, c'est un peu ça. J'ai envie d'espérer que oui.
Mais je te dis que non.
Mais je pense pas, parce que déjà Christian est délocalisé. Donc en fait,
il combat sous pavillon
ceux
canadien.
Ceux qui vont
maintenant
récupérer, je crois, le plus de choses, ça va être nos cousins québécois dans un premier temps. Et ça va être excellent pour le business de Christian, qui, pour rappel, n'habite plus en France et je crois plus au Québec non plus d'ailleurs. Je crois qu'il est principalement basé aux Émirats. Je pense que pour sa brillance personnelle, ça va faire quelque chose de bien, mais je suis pas sûr qu'il y ait un ruissellement autour de cette victoire-là.
Mais non, si on peut avoir un championnat, regardez, on a eu Bruno Suras qui a gagné contre Jaime Munguia. Il a fait l'aller à Tijuana, il l'a mis KO. Il est revenu en France, il a eu une hype. Et après, derrière, est-ce qu'il y a eu un promoteur? Est-ce qu'il y a une télé qui s'intéresse à lui? Alors qu'il a tout pour réussir.
Ouais.
Il a tout pour réussir. Il frappe, il est beau gosse, il sait parler. Il manie les réseaux sociaux. Qui, aujourd'hui, a dit, bon, toi, ton personnage, il me plaît bien, j'ai envie de te mettre en avant. Et tu mérites d'être mis en avant parce que tu parles à un maximum de Français. Il n'y a personne. Donc, je ne pense pas. Moi, je pense que ça doit être beaucoup plus fort. Et comme je le dis, ça doit être politique. Ça émane d'une volonté politique que la boxe soit redynamisée en France.
Je suis totalement d'accord. Surtout qu'on avait parlé d'augmentation de budget et que c'est exactement l'inverse qui s'est produit.
On parle de
tapé sur le sport en premier. Donc, je suis là, je fais ce que je fais aujourd'hui. Je suis encore responsable associatif. Je suis encore entraîneur de quartier. J'ai encore ma salle à Saint-Ouen, juste à côté des puces.
Alors, Ça, c'est juste un des autres sujets que je voulais aborder avec vous. Est-ce que justement la pratique peut aussi jouer sur le fait que la boxe soit populaire médiatiquement? Tu vois, il y a des salles, tu connais bien le Temple du Noblard parce que t'as beaucoup travaillé là-bas. Il y a des salles un petit peu, on va dire, bobo, hype. Parce que bobo, Apollo.
N'oublions pas qu'il y a Sine, responsable de Villem.
Dans le 15e.
Dans le 15e et à Marseille.
À Marseille aussi. Il y a Battling Club aussi, qui est une salle qui a bien marché à un moment. Donc voilà, c'est des salles pas forcément très accessibles, mais qui donnent une image un petit peu différente de la boxe.
C'est grâce à ces salles.
Entre les salles associatives, dans les villes, dans les quartiers, etc., et ces salles un petit peu plus haut de gamme, si tu arrives à amener plus de monde au cours de boxe, est-ce que ça peut aussi aider le sport à se populariser au niveau médiatique?
Exactement. Moi, je pense que grâce au Temple du Noblard, grâce à la Villem, grâce à Apollo, grâce à ces nouvelles salles qui émergent un peu dites haut de gamme, mais oui, c'est pareil, ils s'entraînent aussi dur et avec des meilleurs entraîneurs, même ça, ils ont les meilleurs entraîneurs de banlieue. Tu vas au Temple, il y a des entraîneurs de l'équipe de France, tu vas à la Villem, c'est pareil. Tu as tous les meilleurs entraîneurs. Aujourd'hui, pour des personnes qui mettent l'argent pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir suer. Ces personnes-là, ceux qui vont venir, s'il y a, bah là, on organise, on a fait un tarif pour les personnes du Temple Noblard.
Ouais, exact, ouais. Parce qu'on a
c'est eux qui vont venir. Il y a deux coachs du Temple qui vont boxer sur la soirée du Grand Palais, mais c'est ce nouveau public qui vont venir, mais s'il n'y aurait pas leur coach, ils ne seront jamais venus.
Exactement.
Ils ne connaissent même pas Mbili, ils ne connaissent même pas Cyril, ils ne connaissent même pas le kickboxing. Bon, il y a Cédric Pénaud qui vient, il y a Sonny Po qui vient, c'est nos coachs, on va venir les supporter.
Il vient à 50. Le mec, tu le vois tous les jours de ta vie, tu le vois 6 fois par semaine, là, tu vas t'engager, tu vas le suivre, donc c'est important. Et au-delà de ça, parce que moi, c'est un monde que j'ai découvert il y a 3 ans, je ne connais pas, tu vois, comme je te l'ai dit, moi, j'ai toujours été entraîneur bénévole de associatif, et puis je rentre dans ce milieu-là du coaching plus privé, plus premium, on va dire, et je découvre un nouveau public. Je dis même, d'ailleurs, que quand j'arrive au Temple, j'avais dit dans une interview, j'avais une certaine appréhension au début de gérer ce genre de public. C'est complètement différent de ce que tu fais d'habitude.
Alors pas du tout.
En fin de compte, pas du tout, parce que c'est des gens qui veulent juste apprendre, et donc ça va très vite. Et ensuite, maintenant, de voir ces deux publics-là, entre guillemets, se réunir jeudi au Grand Palais, parce que certains sont coachés par Sonny Po au Temple, et d'autres connaissent Cyril depuis toujours. Moi, Cyril, il y a quelqu'un dans son entourage que je connais depuis que je suis ado, que c'est Sofiane. Donc je suis pressé de le voir jeudi, parce que ça fait des...
Sofiane, c'est possible.
Ouais, ça, on était au Rainboxing ensemble, donc ça fait plus de 10 ans qu'on s'est pas
mais moi, c'est... Ah ouais, ouais. Sofiane, c'est moi qui ai
présenté
Sofiane à Cyril.
Ouais, j'espère que je le verrai jeudi, parce qu'on n'arrête pas de se louper, là. Et ça fait, ça fait une bonne décennie qu'on s'est pas...
T'étais au RMB chez Rachid.
J'étais formé chez Rachid, ouais, exactement.
Je vais boxer Walid en longtemps. J'étais venu avec Grégory Choplin.
Avec Grégory Choplin, ouais, exactement. C'est la belle époque. Mais donc, ouais, tu vois, c'est de voir ces deux mondes-là qui se réunissent sous un événement. Ça va faire remonter la boxe, et ça socialement peut-être.
Prouve aussi aujourd'hui que la boxe fédère et que c'est le seul sport qui fédère. Et j'en parle souvent. J'ai aujourd'hui la mixité qu'on va retrouver au Grand Palais, tu le retrouves dans aucun sport. Comme on a dit, il y a des personnes sulfureuses, il y a des chefs d'entreprise, il y a des étudiants, il y a des jeunes de quartier, il y a des grosses personnalités politiques. Nous, on attend François Hollande, là, jeudi. On va avoir d'autres grosses personnalités politiques. On a peut-être l'ancien ministre des Sports qui va venir, Bernard Laporte. Et ça, tu le retrouves qu'en boxe. Tu le retrouves pas dans les loges du PSG, parce que dans les loges du PSG, ils sont dans les loges. Tu le retrouves pas non plus au handball. Tu le retrouves nulle part ailleurs. Tu le retrouves pas au MMA. Tu le retrouves en boxe, en kickboxing, par les biais des événements qu'on propose, mais en boxe anglaise aussi. Mais ça, il n'y a que ce sport-là qui arrive à fédérer. Et comme je te dis, si on n'a pas aujourd'hui une volonté politique à l'échelle nationale de fédérer par le biais du sport et notamment par le biais de la boxe, on ne réussira pas. Et aujourd'hui, si on veut faire rêver aussi nos jeunes de quartier populaire, faut mettre en avant des jeunes de quartier populaire. Si on a envie de faire rêver aujourd'hui, ils s'identifient beaucoup à travers les réseaux sociaux. Combien de personnes ont commencé la boxe grâce à Bilal Chkitou? Il y en a moins 15-20, c'est bien. Ça
non, mais c'est
envie.
Ça, parce que là vous parliez d'un mec qui vient prendre un cours au Temple du Noblard, par exemple. Tu vois, ce gars-là, il a 23 ans, dans 5 ans, il aura des enfants. S'il est devenu mordu de boxe, ses enfants vont aimer la boxe aussi. Enfin, c'est une question de filiation aussi et d'en parler autour de soi, qui peut aider à faire rejaillir la boxe.
Il y a même un des champions du monde qui est à la base un white collar. Un white collar, c'est les combattants qui viennent. Des salles luxueuses londoniennes.
Fabio Wardley, il a commencé au Temple de Londres.
Ouais, exactement.
À l'équivalent du Temple Noblard.
Et donc, du coup, il a tissé un public autour de lui qui avait un peu d'argent et qui ont déjà fédéré à ses premiers combats pro.
Tu dis le mot fédéré, ça me ramène juste, et ce serait peut-être l'occasion de conclure ce débat, mais aux fédérations. Est-ce que, moi, c'est un truc qui est en boxe, que je souligne souvent, parce que c'est tellement illisible, les classements. Les ceintures intérimaires. Par exemple, les ceintures quand tu es champion de l'Union Européenne, il y a une ceinture, hop, il y a une ceinture EBU qui arrive aussi, mais tu ne connais pas vraiment la différence. Mais tu peux être champion d'Europe aussi. Mais il y a la lisibilité est quasiment impossible. Et c'est ce qui, pour moi, il y a peut-être aussi beaucoup de catégories de poids. Donc il y a beaucoup de champions aussi dans chaque catégorie de poids. Le côté sulfureux des fédérations, le côté arrangement entre amis, etc. C'est ça qui, pour moi aussi, empêche aussi un petit peu la boxe de parler au grand public. Est-ce que ça, tu crois que vous croyez que les, les fédérations sont prêtes aussi à faire des efforts sur leurs moyens de communication. On a reçu à la fois Souleymane Sissoko et à la fois Bruno Suras qui nous disent, mais moi, quand je parle avec Souleymane, il partait en Thaïlande pour assister à un congrès de sa fédération pour essayer
apprendre
de
finalement, la visibilité, les boxeurs
qui sont un petit peu en haut de la colline, Souleymane, c'est hyper compliqué. Comment est-ce qu'on arrange ça aussi?
Et c'est là où il faut un promoteur puissant et qu'on voit qu'on a eu un très gros promoteur puissant, deux frères qui s'appellent les frères Akaïs, qu'on réussit à avoir une main de fer contre ce système-là et à réussir à faire des champions. Ils ont même fait des chocs franco-français. Mendy, Lorsi, magnifique. Ouais. Tu vois, ils ont redynamisé grâce à leur réseau au niveau international. Et après, c'est vrai que on comprend pas beaucoup. Il y a plusieurs ceintures. Je te l'avère, c'est vrai. Et là, il y a Turkish qui veut faire une fédération type UFC.
Type UFC, ouais, exact. Type UFC, Zuffa Boxing.
On va voir, wait and see. Mais si la WBC, la WBA, l'IBF, la WBO, l'IBA, l'IBO, il y a au moins 7 fédérations. Il peut avoir 7 champions du monde.
C'est illisible.
Dans la même catégorie. C'est illisible. C'est illisible. Mais si Zuffa devient fort, au fur et à mesure, ça. Moi, ce que je pensais, réellement, et je pensais que Turquie allait acheter toutes les fédérations. Mais vraiment,
ouais.
Il allait acheter la WBA, la WBC
et faire
une ceinture. Je pense, il est tellement passionné et il va faire la ceinture. Il va appeler la ceinture The Ring.
Je pense qu'il a commencé comme ça. Voilà, il a commencé comme ça. Je pense que l'idée de base, quand il achète le magazine, le Ring Magazine à Oscar De La Hoya, c'est de se dire, moi, je veux imposer la ceinture Ring comme étant la ceinture qui te détermine qui est champion. Mais s'est rendu compte très rapidement que ce sera quand même dilué, que la WBC, elle compte pour tout le monde, elle compte pour les yeux des fans. Moi, il m'emmerde profondément, la WBC, depuis des années. Maintenant, j'ai beaucoup de mauvaises choses à dire auprès de M. Souleymane. Ouais, mais lui, c'est très grave. Parce que lui, c'est faire des championnats du monde à des mecs qui sont dopés et convaincus de dopage. J'ai plus de force pour ce mec. Mais c'est la ceinture verte et or. Ouais. C'est celle de Mohamed Ali. Donc à chaque fois, t'as
Tyson,
t'as ton imaginaire qui. Quand Christian est arrivé pour le Versus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé sa ceinture, je me suis mis dans un coin, j'ai fait une photo avec. C'est la vérité, tu vois.
C'est beau.
C'est parce que c'est la ceinture WBC, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris une route différente en disant on va faire Zuffa, on va casser le Ali Act et on va créer un UFC de la boxe. Moi, tout le monde sait ce que j'en pense. Il y a au moins, je sais pas, 10 heures de baba
mais
sur
moi,
les
j'adore.
Fighter Club là-dedans. Donc, c'est à la fois compliqué parce que pour le boxeur, ça peut devenir risqué. Mais quand je vois, il faut aussi mettre un peu d'eau dans son ventre, guillemets, quand tu te mets à la place de certains boxeurs comme Raphaël Moni qui vient de signer, comme Maxime Vaz qui vient de signer, ce sont des Français qui vont signer avec Zuffa Boxing parce que quelle est leur autre alternative? Il n'y en a pas. Donc là, il y a quelqu'un qui vient qui leur propose 6 contrats. C'est pas Baba qui est là derrière son micro qui va dire ah, tu comprends, attention, c'est peut-être dangereux. Il n'y a rien à dire. C'est des combattants qui doivent boxer et qui doivent gagner leur vie.
Ils n'ont pas peur de la défaite.
Force à eux.
Mais est-ce que, parce que on a souvent critiqué aussi ici Zuffa, Dana White qui est dedans, etc. Mais nous qui appelions tout à l'heure, est-ce que les organisations, les fédérations sont un peu plus fortes que les combattants, histoire que les gens viennent voir de la boxe et se détachent un petit peu des noms qui combattent. Est-ce que finalement, ce que va faire Zuffa, ça peut pas être un élan positif?
C'est là où la nuance, elle est importante, c'est que moi, je veux que la promotion, c'est-à-dire là, je te prends l'event en tant que tel, il soit plus fort que la diffusion. Et l'event, il est porté par les boxeurs. Donc les boxeurs vont être plus... Les gens vont venir pour les boxeurs.
Ouais, parce qu'il
c'est différent de Dana White qui est là tout le temps en conférence de presse et qui explique au micro ce que vous pensez, j'en ai rien à foutre.
Sa langue
il
de bois
dit littéralement ça. Tu vois.
Non mais ce qui est bien, c'est que les boxeurs qui ont souscrit à Zuffa, ils n'ont pas peur de la défaite. Et aujourd'hui, on a un problème en boxe anglaise, c'est que dès qu'on a une défaite, on descend des classements, on est mis au placard. C'est trop dur.
Ouais, c'est trop dur.
Alors que, regardez, au foot, on peut perdre 3 fois d'affilée, on reste en Ligue 1. Hein.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un sport très dur.
Alors qu'en boxe, tu as 3 défaites d'affilée.
Cette peur du zéro qui disparaît, évidemment.
Alors, en MMA, je t'en parle pas. T'as une défaite, t'es mort, alors que t'en as 4 d'affilée, t'es au placard.
Ouais, et
t'as jamais existé en plus.
Et puis parfois, CF, Bruno Suras, tu prends des défaites contre des mecs dopés, et puis finalement, la défaite semble rester. Donc,
ouais, normal.
Il y a des choses aussi qui sont vraiment.
La défaite reste et le mec fait 10 disputes en championnat du monde.
Et derrière, lui, il boxe pas aussi.
C'est-à-dire
qu'il est bloqué.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il le tape à l'aller et au retour, il est.
C'est un milieu très compliqué. Pour terminer, Baba, est-ce que dans les 10 prochaines années, on va pouvoir vivre une renaissance de la boxe en France?
Mais moi, j'y crois toujours parce que je suis dans ma quarantaine et on m'a toujours expliqué que la boxe, elle était morte. Bah, c'est pas le cas. Donc, c'est soit c'est une mort extrêmement lente, la plus lente de l'histoire, soit il faut arrêter aussi de faire des lieux communs et juste faire les causes et que tout le monde se mette autour de la table. On n'a pas beaucoup parlé de la fédération, Yacine en a beaucoup parlé, mais ouais, je finirai là-dessus en disant que chacun prenne ses responsabilités pour que ce sport redevienne ce qu'il était dans les années 90 en France.
Dans les 10 ans, est-ce qu'on va revoir un âge d'or de la boxe?
Bien sûr,
ouais,
j'en suis sûr, avec la nouvelle génération qui arrive, j'en suis sûr. On a une équipe de France qui est exceptionnelle. On a des vraies championnes, parce qu'on parle beaucoup des champions, mais on a des vraies championnes. On a des Roman Moulet, on a des Amina Zidani, en moteur, on a Estelle Mosley.
Ouais.
On a vraiment aussi une boxe féminine très très forte. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est peut-être les femmes qui vont.
Et tu vas y contribuer, Yacine, Star Event notamment, pour essayer d'accompagner les boxeurs et d'avancer main dans la main avec eux pour que leur combat soit bien médiatisé.
C'est l'objectif des 10 prochaines années.
Merci Yacine Baraba d'être passé par le studio du RMC Fighter Club. On le rappelle, dans 2 jours, on enregistre mardi, on diffuse mercredi et jeudi soir au Grand Palais, la soirée kickboxing autour de Cyril Benzaken avec beaucoup de très beaux noms. Baba qui sera dans le coin, dans les parages, tu seras au Grand Palais jeudi soir. J'y serai aussi.
Place au ring.
Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur le RMC Fighter Club. Abonnez-vous, likez, mettez des alertes, faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez. Merci à Julie et Arthur aujourd'hui qui étaient en régie pour cette émission. À très vite, ciao.
RMC Fighters Club.